Ça fait déjà quelques jours que je prie, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que ton Église écoute? Parce que la Bible dit qu'on doit partager tout le conseil de Dieu. Et tout le conseil de Dieu commence dans la Genèse, ça termine en Apocalypse. Et en priant, Dieu m'a amené à une lettre de l'apôtre Jean. Donc on va se centrer sur le livre de 1 Jean pour l'instant. On va rester sur cette nouvelle série. Et pour l'instant, Dieu ne m'a pas donné un titre de la série, mais ça va venir. D'accord? Ça, ce n'est pas la plus importante. Mais il y a quelque chose de plus. C'est toujours plus. Dans le sens de dire, avec Dieu, on a plus. Ce n'est pas de moins. Ce n'est pas qu'il nous enlève des choses, c'est qu'il nous donne de plus, en plus. Et la première chose que... Et tout ensemble, ça s'appelle « Nous l'annonçons ». Donc, c'est 1 Jean 1 jusqu'à le chapitre 2, verset 2. C'est pas long, vous inquiétez pas. Je ne sais pas si vous êtes fan de voir la télé ou pas, mais quand on voit un match de quelque chose, bref, on a de la pub. D'accord? Et la pub a un but. C'est de quoi? C'est de nous faire désirer quelque chose. D'accord? Quand on met une pub sur Facebook, c'est pourquoi? Pour faire désirer ou pour que les cieux soient attirés et que les gens veulent assister ou faire quelque chose là. Là que je vois, derrière, ils ont ouvert leur lieu de. Comment s'appelle le cocon de, comment s'appelle?
Parenthèse de charme.
C'est une place en Bretagne, c'est où la ville? C'est un très beau lieu. Mais ils ont mis des photos superbes sur Facebook. Et la seule chose qu'on peut en penser, c'est que je vais y aller. Et ça, c'est le but, n'est-ce pas?
Oui.
Voilà. Donc, le but de l'annonce, c'est quoi? C'est pas simplement se remplir les poches, mais c'est aussi de attirer. D'accord? D'attirer, de nous influencer. Écoutez bien. De nous influencer à quelque chose. Soit évidente ou soit cachée. Est-ce que vous avez entendu des messages subliminels dans votre vie? Un message subliminel, c'est un message caché qu'on n'entend pas ou on ne voit pas. Parfois, ce qu'on faisait avant, pour ceux qui se souviennent des cassettes, d'accord? Des cassettes, on retournait la petite bande et on entendait un message caché et parfois c'est très très dangereux. Mais même dans le cinéma, Coca-Cola avait fait un test dans un moment et les gens quand il allait voir un film, donc pour les films il y a une certaine quantité d'images par seconde, d'accord, normalement c'est presque 30 images par seconde.
Hein?
24 cinéma, merci. Donc 24 cinéma. Donc imaginez-vous que Coca-Cola mettait entre ces images des pubs. Buvez Coca, buvez Coca, buvez Coca, buvez Coca, entre milieu. Mais le cieux, parce que l'image passe vite, on le voit pas. Et les gens, quand ils sortaient du cinéma, qu'est-ce qu'ils allaient qu'est-ce qu'ils allaient acheter?
Coca.
Ni Fanta, ni Sprite, ni d'autres. Coca. C'était un message caché, un message qu'on ne pouvait pas voir mais qui nous influençait. Et là, ce que l'apôtre Jean va faire dans toute sa lettre, c'est d'annoncer, de ne pas le cacher, de ne pas le faire mystique, mais de le faire réel, de le faire quelque chose qu'on peut même le toucher. La première chose qu'on va voir, c'est qu'il va nous annoncer qui? Jésus. Et quoi en Jésus? La vie éternelle. La vie éternelle. Je vous invite à ouvrir votre Bible, si vous l'avez, en 1 Jean 1. Sinon, je vais le montrer ici. On va lire les premiers deux versets simplement, de 1 Jean 1. La Bible dit ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos cieux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie était manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Alors, il y a quelque chose d'essentiel à savoir ici. Et la grande majorité des écrivains de la Bible, ils s'écrivaient donc pour leur temps, d'accord, parce qu'ils avaient des soucis dans leur temps. Et il y avait une problématique dans leur temps. Et Jean, qui on croit qu'il habitait dans la ville d'Éphèse, ou la lettre à Éphésiens, écrite par l'apôtre Paul, et il avait un problème des gnostiques. Les gnostiques, ce sont des gens qui aiment la raison. Gnosis, c'est la raison, et après, ce sont des gens qui aiment la raison. Mais ces personnes-là, ils croyaient que Jésus n'était pas Dieu, car le divin ne peut pas se mélanger avec la matière ou le corps. Donc Jean va commencer directement, il va dire ce qui était dès le commencement, il va dire ce qui existait déjà. On parle de la préexistence de Dieu, de Jésus, ce que nous avons entendu, et après il va revenir, il commence dans l'éternité. Ce qui était dans le commencement, ce qui existait déjà. Donc, souvenez-vous que Jésus est la deuxième personne de la Trinité, fait chair. D'accord? Jésus, c'est le seul homme-dieu qui a existé et qui existe encore. Parce qu'il a ressuscité, il est vivant. Donc, Jean va dire, vous qui croyez cela, je vais vous le dire. Ce qui était auparavant au ciel, il est venu. Pourquoi? Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé. Ce sont des différents types de choses que nous pouvons tous les sens que nous pouvons utiliser pour savoir que quelque chose s'est réalisé. Donc Jean va dire, j'ai vu Jésus, je l'ai touché, je l'ai contemplé, et même contemplé et où c'est seulement dont tire aujourd'hui le mot théâtre en français. Jésus s'est présenté comme dans une scène. Pour faire quoi? Pour nous influencer, nous. Pour nous montrer sa vie. Pour dire, me voilà, me voici. Et que nos mains ont touché concernant la qui? Parole de vie. Pour l'instant, il ne mentionne pas Jésus, c'est moi qui le mentionne. Mais quand on parle de parole, peut-être que vous avez entendu le mot logos, ou la parole. C'est exactement logos, c'est en grec, ça veut dire parole, parler. Alors, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce qu'on arrive à un moment où, et on parle aussi de la Trinité, on parle aussi de Dieu, ce qu'il est, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Père exprime son amour envers l'être humain en envoyant sa parole, son Logos, son Fils Jésus qui est divin et égal en puissance. Je vais le redire. Le Père exprime son amour envers l'être humain qui envoie sa parole, son Logos, son Fils Jésus, qui est divin, égal en puissance. Le Père exprime de telle façon son désir pour l'être humain qu'on a Christ. Christ est né. Alors, comment s'est passé? C'est un mystère. Personne ne peut l'expliquer. Mais en Christ s'est produit la autodonation de Dieu vers l'homme. Dieu se autodonne, il a tout donné. Il ne peut pas donner plus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donné. Et quand on donne, normalement on donne tout. A tant aimé qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en moi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 14, 9 dit, c'est Jésus qui parle, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, quand on parle de parole, on parle de Jésus. Mais parole de vie. Pas simplement parole, pas simplement quelque chose que quelqu'un dit. Il y a quelque chose qui change, quelque chose qui me donne la vie. La vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père qui nous a été manifestée. Dieu a manifesté son amour à travers son Logos, à travers Jésus, son Fils. Alors, la vie éternelle, pourquoi la vie éternelle? Quel rapport? La vie éternelle. Déjà, Dieu est éternel. Dieu nous donne ce qu'il a, la vie éternelle, à tous ceux qui veulent accepter. Alors, je vous pose la question. Et je ne vais pas vous demander de lever la main, ne vous inquiétez pas. Mais j'aimerais bien que vous réfléchissiez à cette question-là. Et je ne veux pas que cela vous arrive. Mais il faut poser la question. Si vous mourrez aujourd'hui, vous allez là. La Bible parle des deux lieux, l'enfer et le ciel. Il n'y a pas quelque chose au milieu. Le purgatoire n'existe pas, c'est quelque chose, une invention. Enfer ou ciel, vous allez. Je sais où je vais. Et je ne suis pas prétentieux quand je le dis.
Parce que j'ai
la parole de Dieu qui me le confirme. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. C'est une promesse. Et ce n'est pas à cause des actes ou de mes œuvres que j'ai la vie éternelle. C'est grâce à Christ, à son sacrifice sur la croix. Alors aujourd'hui, mes amis, mon but, c'est que vous puissiez sortir de ces lieux. Soit avec un questionnement que je ne sais pas où je vais, mais je veux une réponse. Oh, rassurez, oui, je sais où je vais. Pourquoi? Parce que Jean, il est venu et il vient nous annoncer quoi? La vie éternelle en Jésus. Dans la parole de vie. Parce qu'il nous rend la vie. Parce que la Bible dit qu'il était mort dans nos péchés. Il nous a ressuscité avec Christ. Nous vous l'annonçons. La vie éternelle. Deuxième chose, c'est que nous vous annonçons une relation personnelle et d'ensemble. Versets 3 et 4 de 1 Jean dit ceci. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Et aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père, avec le Fils et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit complète ou parfaite. La relation que la venue de Christ fait dans notre vie, c'est créer une communion. Une commune, union. Composé. Alors, quand on vient ici, on se réunit en tant qu'église, on est en communion. Pourquoi? Parce que la Bible, pas simplement que la Bible nous parle d'avoir une relation personnelle avec Dieu, mais aussi on peut avoir une relation entre des autres, des hommes et femmes et ensemble. C'est pourquoi Dieu parle de la famille. On est une famille en Christ. C'est Paul qui parle de ça. Et une famille à quoi? Elle est différente, composante. Le papa, la maman, le maman, mais ce n'est pas simplement qu'on est papa, père et mère, c'est qu'on est frère et soeur en Christ. Frère et soeur en Christ. Et le partage de cette communion est indispensable pour celui qui croit, car c'est une des piliers de l'Église, où nous pouvons être nous-mêmes sans le faux semblant, car le seul qui a l'autorité finale sur nos vies, c'est Dieu qui nous conseille par sa parole. On est en communion. Donc je vous annonce, Jésus est venu, Jésus s'est fait chair, il a payé pour nous donner la vie. Pourquoi? Pas simplement pour qu'on soit tout seul dans le monde, mais qu'on soit en famille, en communion. C'est pourquoi c'est ouvert ce moment, c'est ouvert ce moment de partage. Je veux dire, c'est qui nous juge? Personne.
Personne.
La parole de Dieu fait le travail de nous connecter les uns les autres pour forger une famille, un solide rempart contre les éventuels aléas de la vie, contre les attaques de l'ennemi et contre nous-mêmes. Et contre nous-mêmes. 1 Timothée 4:16 et Paul va dire à Timothée quelque chose d'intéressant. C'est la chose qu'on ne s'attend pas de Paul dire à Timothée. Paul il dit attention à ce que se passe dans le monde, à avoir une bonne attitude en tant que serviteur de Christ. Et il dit, ne néglige pas, le verset 14 et 1 Timothée 4, 14, ne néglige pas le don qui est en toi et qui a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi entier à elle, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Verset 16, veille sur toi-même. C'est la première chose qu'il dit. Et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui te coûtent. Veille sur toi-même. Pourquoi veille sur toi-même en premier lieu? Pourquoi pas dire veille sur la doctrine, veille sur la liturgie, veille sur... Pourquoi veille sur toi-même? Parce que toutes les choses qui viennent dans la tête peuvent être détournées facilement. Et je peux prendre ça comme une doctrine, comme une, quelque chose qui va diriger ma vie, et après je peux détourner moi-même, mais aussi détourner des autres. C'est pourquoi la Bible dit, en Hébreux chapitre 4, verset 10, que la parole de Dieu est efficace et qui va transformer notre intérieur pour maintenir ces relations personnelles et ensemble dans notre communion. Mais c'est là, il l'annonce. Encore une fois, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. L'annoncer, ça veut dire ouvrir la bouche, le partager, le vivre. Parce qu'on peut aussi annoncer ce que nous vivons avec nos actes. Nous vous annonçons la vie éternelle, qui a une relation personnelle avec Jésus. Et aussi d'ensemble, on vient à naître dans une famille en Christ. Mais aussi, nous vous annonçons, Dieu est lumière. C'est une affirmation. Dieu est lumière. Verset 5 jusqu'à chapitre 2, il n'y a pas beaucoup de versets. La nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que nous avons... et que nous vous annonçons, c'est que Dieu lui-même, que Dieu, pardon, est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point et que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Dieu est lumière. On va arriver à ce verset dans un moment. Dieu est lumière. La lumière, il y a, selon moi, je crois, il y a trois caractéristiques essentielles. La première, c'est qu'il illumine. La Bible dit quoi? Ta parole est une lampe. Deuxième chose, elle chauffe. Si on est sous une lampe, à suffisamment de temps qu'il se passe, ça chauffe, ça réchauffe. Et troisième, écoutez bien, la lumière dissipe les ténèbres. Une chose qui nous guide, autre chose c'est qu'il dissipe les ténèbres. Parce que dans un moment, on allume la lumière dans un lieu sombre, qu'est-ce qui se passe? L'ombre fuit. Il se cache. Il ne peut pas être là. Donc, si Dieu est lumière, il illumine ma vie. Il passionne ma vie, il réchauffe ma vie, mais il dissipe les ténèbres qui sont en face de moi. C'est super. Dieu est lumière. Et ça, c'est excellent. Et si Dieu est lumière, par conséquent, ses enfants le sont aussi. Si Dieu est lumière, par conséquent, ses enfants le sont aussi. La Bible dit en Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16, vous êtes le sel du monde. Après, dit quoi? Vous êtes aussi lumière. Et lumière, on ne peut pas se mettre sous le tapis. Il faut le mettre le plus haut possible pour qu'il illumine le plus. Donc, si Dieu est lumière, et je l'annonce comme ça, ma vie, ma bouche, ce que je dis, ce que je fais, doit être en conséquence de ce que se passe. Doit être influencé par cela. Parce que, et Jean utilise cette façon d'écrire, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. Verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, et voilà, si nous disons que nous n'avons pas de péché, voici, il utilise si nous. Vous savez quoi? Si nous vivons de cette façon-là, il ne faut pas se mentir à soi-même. Et en plus, on fait à Dieu menteur, que c'est encore plus grave. Parce qu'on ne peut pas dire je suis chrétien. Et après, c'est se comporter pire qu'un non-chrétien. Chrétien, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Petit fils. Quand on sort de là et on dit, et on s'affiche à soi-même, je suis protestant, évangélique, n'importe, je suis chrétien, les gens, automatiquement, ils mettent la barre violente. Et tout le minimum, le péché le plus petit, ils vont le voir. Ils vont te dire, ah, t'es un chrétien. On était au Mexique et Marcela était en train de faire un suivi avec cette femme-là et moi j'étais à l'extérieur en train de discuter avec le mari. Et le mari, je disais, bon, on discutait de la Bible, de Dieu, et je posais la question, mais pourquoi tu veux pas avoir Christ, recevoir, accueillir Christ dans ta vie? Il m'a dit, tu sais Joël, je me comporte mieux que beaucoup de chrétiens que je connais. Notre témoignage, notre vie doit être en accord à ce que je dis. Je ne peux pas dire je suis chrétien et ne pas le vivre. C'est incohérent. Je ne peux pas vivre en incohérence avec moi-même. Parce que sinon, je vis dans le faux semblant. Et après, à la fin, quand je veux avoir quelque chose, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Quel est mon but dans ma vie? C'est quoi le but de ma vie? C'est vivre. C'est de faire croire aux autres que je suis comme ça, ou d'être moi-même. Et moi, je suis comme ça. Être clair comme Dieu et lumière. Rien se cache devant lui. Tout est vu. Il voit tout, n'importe où on se cache. David le dit, où je peux fuir de ta présence? Où? Si je prends les ailes de l'aigle, je peux voler le plus loin possible. Là, ta présence me va trouver. Je ne peux pas être caché sous une pierre. Mais je suis de la maison, bon, tu es en train de voir ça dans la télé ou sur Internet. Seigneur, toi, tu me vois. Tu me vois. Illumine, Dieu de lumière, il illumine ma vie, il chauffe ma vie, et il dissipe aussi les ténèbres. Et ce qui c'est impressionnant, c'est que Jean, il termine ce morceau de passage, dit mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Un avocat auprès du Père Jésus-Christ le Juste, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux de notre monde entier. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du tabernacle. Dans l'Ancien Testament, la façon de laquelle Dieu avait pourvu la communication entre les hommes et lui, ça s'appelle le tabernacle. C'est un lieu, ce n'était pas un lieu en dur, mais c'était comme une tente, une grande tente. Il avait un lieu où s'appelle le lieu très saint, où seulement une fois par an, le souverain sacrificateur rentrait attaché avec le cœur au pied. Et il amenait sur Cette est l'arche de l'Alliance. Peut-être vous avez entendu parler de sur Indiana Jones. L'arche de l'Alliance, c'est deux parties. La partie du bas, où il y avait des choses à l'intérieur, et le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est quoi? C'est la couverture. D'accord? Alors, ce qui faisait le souverain sacrificateur, c'est que à l'extérieur, il sacrifiait un agneau, sans faute, sans tâche, et le sang de cet agneau, il rentrait avec cet agneau pour que Dieu pardonne les péchés de tout le peuple d'Israël. Il le versait ici, à l'intérieur, là. Mais Dieu pouvait accepter ou ne pas accepter. Si Dieu n'acceptait pas le sacrifice, le souverain sacrificateur mourrait d'une façon instantanée. Personne d'autre ne pouvait entrer là. C'est pourquoi la corde au pied, il le tirait. Mais si l'Éternel acceptait le sacrifice, il sortait indemne. Alors, la Bible dit, il est lui-même une victime expiatoire. On parle de Jésus. Pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour tout le monde. Jésus, en tant que souverain sacrificateur, rentre, il se donne lui-même. Son sang versé à la croix, c'est la scène qui va rentrer pour apaiser la colère divine. Pour nos péchés. C'est pourquoi la question que je vous ai posée tout à l'heure, si vous mourrez aujourd'hui, vous allez où? Parce que le sang de Christ, un jour, m'a sauvé, m'a racheté. Je devais rentrer à ces lieux et je sais qu'à cause de mes péchés, je n'ai pas été accepté devant le Père. Mais Jésus a pris ma place. Il m'a sauvé. Et il m'a donné cette opportunité de vivre dans sa grâce. Même avec le pire de moi. Pourquoi? Parce qu'il m'aime. Il n'y a rien que je puisse faire qui puisse satisfaire son amour. En plus, il a tout donné, il a donné son fils pour moi et pour vous, pour tout le monde. Si lui, il a tout donné, Jean nous dit, Christ est ressuscité et sa grâce est pour nous. Et il nous invite pas seulement à le savoir, mais aussi à l'annoncer. Si tu meurs, tu vas où? Si tu meurs, tu vas où? On va prier pour terminer. Mais à la fin de ce temps ensemble, après qu'on va chanter un chant, si vous avez des questions par rapport à ce que par la question que je viens de vous poser, venez me voir. Venez me voir. Parce qu'il y a un enjeu éternel dedans. Ce n'est pas simplement des mots. Ce sont des vérités éternelles. Teigneux de la Bible, pas de moi. Jésus a parlé plus de fois de l'enfer que du ciel. Ça vous surprend? Si Jésus a parlé de l'enfer comme un lieu terrible, créé pour Satan et ses démons, mais que les gens décident de rejeter la grâce de Dieu en Christ, ils vont aller à ce lieu-là, malheureusement. Parce qu'il établit qu'il y a un jour, les gens meurent, et après il y a un jugement. Et le livre des Hébreux, on trouve ça. Je vous invite à prier, et après on va chanter ensemble un dernier chant. Jésus, ami de mon âme.